rencontre, ton universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 15 octobre 2014, en direct de Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, nouveau cas d'Ebola aux États-Unis. Le président Obama convoque une réunion d'urgence de son cabinet.
Cinq morts dans de nouvelles violences à Bangui en Centrafrique.
Des miliciens anti-Balaka ont mené des représailles suite au lynchage d'un des leurs à Wango, quartier proche de la résidence de la présidente Catherine Samba Panza.
Les djihadistes de l'État islamique gagnent du terrain en Irak, mais reculent en Syrie.
Nous reviendrons ce soir sur la comparution du président kényan Uhuru Kenyatta à la Cour pénale internationale.
Sport, quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2015 et la musique en fin d'émission. Mais d'abord, le journal.
On compte une deuxième contamination au virus Ebola sur le sol américain. Le président Barack Obama tient une réunion d'urgence à la Maison-Blanche avec son cabinet. Le point avec Lionel Gaïma.
Le président Obama a annulé ses plans de voyage pour convoquer une réunion d'urgence aujourd'hui à la Maison-Blanche. C'était peu après l'annonce d'une seconde contamination à l'Ebola sur le sol américain. Amber Vinson est une soignante qui s'occupait du patient libérien mort la semaine dernière à Dallas. Elle a pris l'avion depuis Cleveland, dans l'Ohio, pour revenir au Texas avant-hier. Le CDC essaie maintenant de retrouver les 132 passagers qui étaient à bord du vol 1143, même si la personne infectée ne présentait pas des symptômes pendant le vol. Le CDC a annoncé que Vinson est actuellement en isolement dans un hôpital universitaire à Atlanta. La première contaminée, une autre soignante, Nina Pham, 26 ans, était elle aussi au chevet de Thomas Eric Duncan, patient libérien décédé la semaine dernière à Dallas, au Texas. L'ONU estime que le monde est en train de perdre la course contre le virus Ebola qui pourrait affecter 5 000 à 10 000 personnes par semaine en décembre.
Et le Maroc a annoncé aujourd'hui le lancement d'un plan national pour empêcher l'entrée du virus Ebola dans le royaume. Un des rares pays à avoir maintenu ses liaisons aériennes directes avec les principaux foyers de l'épidémie en Afrique de l'Ouest.
De son côté, la France va mettre en œuvre un dispositif de contrôle sanitaire à l'arrivée sur son sol. Des vols en provenance des zones touchées par Ebola a annoncé aujourd'hui la présidence française. Dans un communiqué, le président François Hollande a réaffirmé que son pays répondrait favorablement à la demande guinéenne de construction de nouveaux centres de traitement anti-Ebola, en plus de celui en cours de déploiement à Macenta, en Guinée forestière.
Sachez enfin que tous les voyageurs arrivant à l'aéroport de Prague seront soumis à des contrôles, avec notamment des formulaires médicaux à remplir, en liaison avec l'épidémie d'Ebola. Et c'est ce qu'a annoncé mercredi le Premier ministre Bohuslav Sobokta.
Ebola qui définitivement domine l'actualité. En République centrafricaine, de nouvelles violences à Bangui ont fait au moins 5 morts et près d'une trentaine de maisons ont été incendiées. Idriss Fall.
Des miliciens anti-Balaka ont mené des représailles suite au lynchage d'un des leurs à Wango, quartier proche de la résidence de la présidente Catherine Samba Panza. Bilan provisoire, au moins 4 morts et plusieurs blessés. Un autre accrochage a eu lieu entre les forces internationales et les anti-Balaka non loin de l'aéroport. Un milicien a été tué. Igor Berangel Lamaka, porte-parole de la coordination anti-Balaka, a rejeté toute responsabilité et accuse des personnalités proches du pouvoir. Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence, dénonce une tentative de déstabilisation. La situation sécuritaire et le don angolais sont au cœur des débats entre le Parlement provisoire et le gouvernement. Au cours d'une conférence de presse, le général Babacar Gaye, chef de la MINUSCA, appelle tous les Centrafricains à réfléchir sur le devenir de leur pays.
Ce que nous voulions simplement, c'est rappeler que quand il y a une difficulté comme celle que traverse le pays, les gens doivent se dépasser et commencer par ne plus s'affronter, s'asseoir et ensemble discuter de l'avenir de leur pays. Malheureusement, ce que nous avions lancé à Brazzaville n'avance pas au rythme souhaité.
La semaine dernière, les violences ont fait plus d'une dizaine de morts à Bangui.
Élections législatives et présidentielles aujourd'hui au Mozambique. Un scrutin marqué dans une certaine mesure par les rivalités de la guerre civile, comme l'a illustré la mise à sac de 3 bureaux de vote du nord-ouest du pays par des militants de l'opposition. Les précisions de Timothée Donangmaï.
C'est d'un air tout à fait présidentiel que Philippe Nyusi, candidat du Frelimo, le parti au pouvoir, s'est rendu dans un bureau de vote bondé de Maputo pour voter. Les analystes prédisent une autre victoire de son parti qui a gagné toutes les élections depuis l'indépendance. Une demi-heure plus tôt, l'opposant Afonso Dhlakama avait lui aussi effectué une entrée remarquée, tentant pour la cinquième fois d'accéder à la magistrature suprême. Le leader de longue date de la RENAMO est sorti de la clandestinité peu avant le scrutin. Il avait jusque-là accusé le Frelimo de marginaliser son parti. Les premières informations parlent d'un fort taux de participation, mais certains journalistes ont fait état de retard dans le démarrage, essentiellement dans le nord du pays, bastion de l'opposition. Les résultats sont attendus dans les prochains jours.
Au Nigeria, 59 soldats accusés d'avoir refusé de combattre les islamistes de Boko Haram ont comparu aujourd'hui devant un tribunal militaire d'Abuja. Ils sont aussi poursuivis pour conspiration en vue d'une mutinerie. Ces militaires ont plaidé non coupables devant la cour martiale. Rappelons que le 2 octobre, 97 soldats engagés dans des opérations contre le groupe islamiste armé avaient déjà comparu à Abuja devant un tribunal militaire pour mutinerie.
En Algérie, plusieurs centaines de policiers ont protesté aujourd'hui devant la présidence à Alger pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils ont adressé au Premier ministre Abdelmalek Sélal un cahier de doléances incluant le limogeage du patron de la police nationale, le général Abdel Ghani Hamel. Ce mouvement a commencé lundi dans le sud de l'Algérie, comme l'explique Mustapha Abdelli, directeur de l'information à l'agence de presse APS.
La protestation a commencé, comme vous le savez, à Gardaïa. Les policiers ont protesté du fait qu'ils sont constamment agressés par des émeutiers parce qu'il y a des émeutes récurrentes. Et puis, on leur a donné instruction, selon leurs propos, de ne pas intervenir avec de la force. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Lahamel, s'est déplacé. Le ministre de l'Intérieur s'est déplacé à Gardaïa et selon les informations que nous avons diffusées, ils se sont entendus. D'ailleurs, aujourd'hui, à Gardaïa, ils ont repris leur travail. Mais simplement, ce mouvement a été soutenu par deux unités à Alger parce qu'ils sont programmés pour les remplacer. Donc, ils ont demandé la même chose et la protestation a pris un peu de l'ampleur. Il y a eu des pancartes et il y a eu des policiers qui ont demandé le départ du chef de la police. Mais grosso modo, ils ont des revendications socio-professionnelles, notamment le salaire, les logements, comme se fait actuellement dans tous les mouvements de protestation en Algérie.
Mustapha Abdelli de l'APS, joint ce matin à Alger.
En Libye, les forces loyales au général Khalifa Haftar ont lancé ce mercredi une nouvelle offensive pour tenter de reconquérir Benghazi dans l'est du pays. Cette ville est tombée en juillet aux mains de milices islamistes. Claire Morin-Gibourg.
Selon l'AFP, des tirs et des explosions ont été entendus dans plusieurs parties de Benghazi. Hier soir, le général Haftar avait annoncé que ses forces étaient prêtes à libérer la ville. Le porte-parole du chef d'état-major de l'armée libyenne a, lui, annoncé son soutien à cette nouvelle offensive. Selon une source hospitalière, 12 personnes ont été tuées dans ces affrontements. Monsieur Haftar avait lancé en mai une opération baptisée « Dignité » contre des groupes qu'il qualifie de terroristes à Benghazi. Les autorités de transition avaient condamné dans un premier temps l'opération « Dignité » de Haftar, qui avait été accusée de coup d'État. Mais elle semble avoir changé de position après l'élection du nouveau parlement dominé par les anti-islamistes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Maroc et la Mauritanie souhaitent renforcer leur coopération sécuritaire. C'est ce qui est sorti d'une rencontre entre ministres de l'Intérieur des deux pays à Rabat. Un accord portant sur le crime organisé, le terrorisme, la migration clandestine et le trafic de drogue va être élaboré.
Al-Shabaab prépare une attaque à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. C'est ce qu'indique l'ambassade américaine sur place. Des soldats éthiopiens sont déployés en Somalie pour lutter contre les djihadistes qui ont menacé l'Éthiopie de représailles à plusieurs reprises.
Les militants du groupe État islamique gagnent du terrain dans la province d'Anbar en Irak, tandis qu'en Syrie, ils continuent à combattre les forces kurdes pour le contrôle de la ville de Kobané à la frontière turc. Nathalie Barge.
Le chef de la police d'Amriyat al-Fallujah, à 35 km de Bagdad, a déclaré que les djihadistes avaient quasiment assiégé la ville. De son côté, l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme a déclaré que les combattants kurdes ont repoussé les djihadistes dans certains quartiers de Kobani, ajoutant que la coalition a lancé plusieurs frappes sur des positions des islamistes. Le président américain a exprimé son inquiétude sur le sort de Kobani et de la province d'Anbar lors de sa rencontre hier à Washington avec des responsables de la défense des pays de la coalition. Barack Obama a averti que la lutte contre les militants d'État islamique serait une campagne à long terme et qu'il y aura des jours de progrès et des périodes de recul.
Au Yémen, les rebelles chiites d'Ansarullah cherchent à étendre leur influence, s'en prenant aujourd'hui à des militants d'Al-Qaïda dans le centre du pays. Les autorités font état de 11 morts, 5 rebelles et 6 militants sunnites à Rad, dans la province de Baïda. Les chiites ont aussi pris le contrôle d'Oudeïda sur la mer Rouge hier. Il y a quelques semaines, ils se sont emparés de la capitale Sanaa.
Des organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé leur colère après la publication d'images vidéo montrant plusieurs policiers à Hong Kong battant un manifestant menotté et sans armes. L'incident s'est produit ce mercredi alors que la police tentait de déloger les occupants d'une importante voie d'accès près du siège du gouvernement.
Tempête de neige et avalanche dans l'Himalaya, au Népal. Bilan au moins 12 morts, dont 8 randonneurs étrangers, 2 Polonais, 1 Israélien, 1 Indien et 4 Canadiens. Selon les autorités, 14 personnes ont été secourues. Elles craignent cependant un bilan plus lourd, car le mauvais temps a rendu les communications difficiles, empêchant la localisation de potentielles victimes.
8 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre les travailleurs de la construction et des villageois à Yunnan, une province du sud-ouest de la Chine. De sources officielles, on apprend que 6 travailleurs ont été brûlés vifs. L'incident a également fait au moins 18 blessés.
Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Diriec et Chérubin Dorcil. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On passe à la partie magazine de notre émission.
En Guinée, certaines voix réclament l'organisation des élections, et ce malgré l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays. L'ancien Premier ministre et président de l'Union pour le progrès de la Guinée, Jean-Marie Doré, prévient que le virus ne devrait pas être un argument pour le gouvernement guinéen de reporter la tenue des élections communales et présidentielles. Correspondance de Zakaria Camara.
Faut-il attendre l'annonce du dernier cas guéri d'Ebola en Guinée ou pas pour organiser les élections communales et présidentielles? La question a été répondue par Jean-Marie Doré, président de l'UPG. L'ancien Premier ministre de la Transition appelle à la tenue des scrutins avant de soutenir que l'épidémie d'Ebola qui continue de faire des morts en Guinée ne devrait pas être un prétexte pour l'exécutif. Ces propos sont défendus par certains Guinéens à l'image de ce patron de presse.
Je pense que les élections, dans les conditions normales, tout peut se faire. Aujourd'hui, les gens continuent à aller au marché. Il y a plus de monde au marché aujourd'hui qu'il y aura de file le jour des élections. C'est peut-être les campagnes qui vont être un peu lésées, mais sinon, moi, je pense que les élections peuvent se faire. Ouais.
L'ancien Premier ministre guinéen a ajouté que la sensibilisation pourrait permettre de tenir les élections. Mais il n'est pas rare d'entendre les avis contraires dans la capitale Conakry.
À mon avis, il serait très compliqué de tenir des élections dans la mesure où Ebola, à ce jour, est la préoccupation principale des autorités. À cause d'Ebola, pratiquement tous les secteurs d'activité sont aux arrêts et la plupart des investissements du gouvernement reposent sur la santé. Et à mon avis, il serait très difficile que les élections aient lieu en 2015.
La priorité, selon moi, du gouvernement, c'est la rentrée scolaire. On sait que Ebola, ça fait depuis le début de l'année déjà, Ebola est en Guinée. Donc tout le monde se bat pour que vraiment que cette maladie parte définitivement. En ce qui concerne les élections, on a peu de chance qu'elle se tienne en 2015. Donc on se dit vraiment que notre priorité c'est Ebola, ensuite après d'autres choses viendront.
Même si la gestion de l'épidémie d'Ebola par le gouvernement guinéen est très critiquée, le sujet le plus commenté par les Guinéens reste Ebola. Les élections passent au second plan. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a défrayé la chronique la semaine dernière en étant le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la Cour pénale internationale à La Haye. Le bureau du procureur note toutefois que les charges de crimes contre l'humanité retenues contre le leader kényan ont du mal à prospérer. C'est tout le défi d'une cour qui veut juger un dirigeant qui ne manque pas d'influence. Jean-Roger Billon.
Uhuru Kenyatta n'est certes pas le premier homme puissant à être mis en accusation par la CPI, mais il est actuellement à la tête d'un pays et cela implique nombre de problèmes. Fergal Geneo, avocat de certaines victimes kenyanes, estime que le cas Kenyatta est très différent.
This is a case involving an extensive set of steps.
Il s'agit d'une affaire mettant en jeu une batterie de mesures prises par l'État kényan pour faire obstacle à l'émergence de la vérité et de la justice.
L'accusation a admis à l'audience du 8 octobre qu'elle avait peu de preuves, mais elle a expliqué que c'est parce que le gouvernement a fait obstacle. Benjamin Gumpert, du bureau du procureur, a déclaré au tribunal que les preuves existent, mais selon lui, Nairobi refuse de les livrer.
Nous savons qu'il y a 33 mois de relevés bancaires, des pièces à conviction qui n'ont pas été fournies sous la contrainte ou autrement. Nous savons que le matériel est disponible, mais nous ne pouvons pas les voir. Pourquoi ? Parce qu'on nous empêche de le faire.
L'accusation dénonce aussi l'intimidation de témoins dont plusieurs se sont rétractés ces derniers mois. De son côté, le ministre kényan de la Justice répond que le gouvernement a fait tout son possible pour coopérer. Pour Eric Mutua, président de la Law Society of Kenya, ces problèmes étaient inévitables.
You are trying someone who is influential in terms of politics.
Vous jugez quelqu'un qui a de l'influence sur le plan politique. Vous jugez quelqu'un qui a de l'argent. Vous jugez quelqu'un qui a de la machine policière à sa disposition. Il peut utiliser son influence, il peut utiliser la force, l'intimidation, de très nombreux moyens pour réduire au silence des témoins, faire taire toutes les autres personnes qui peuvent apporter quelque chose à l'accusation.
L'affaire Kenyatta est considérée comme un test majeur pour la CPI, qui a obtenu seulement deux condamnations depuis sa mise en service en 2002. M. Kenyatta, qui clame son innocence, fait face à 5 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans la violence post-électorale au Kenya à la fin 2007 et au début 2008. Les troubles ont fait environ 1100 morts, le procès va de report en report et la défense de M. Kenyatta fait pression pour que l'affaire soit totalement abandonnée. Il reviendra au juge d'en décider.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le mariage civil et les unions homosexuelles. Après les récents développements aux États-Unis et le ton modéré du Vatican, vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h30 sur la VOA.
Des dizaines de milliers de Sud-Soudanais qui se sont réfugiés dans une base onusienne de l'État d'unité pour fuir la violence font face maintenant à un autre péril, la montée des eaux. Les travailleurs humanitaires s'activent pour venir en aide à ces gens qui n'ont nulle part où aller. Les précisions d'Eddie Isango.
La vie sur les sites protégés des Bentiu se résume à une lutte quotidienne contre l'eau. Devant une maison inondée, une famille tente de construire une digue, seule barrière contre les lacs boués qui les entourent. Mitérissa, la mère, n'y trouve même pas un moindre coin sec pour allumer un feu. Dans la maison, les sols humides se muaient en boue. La famille dort à tour de rôle sur deux lits. Parfois, nous ne trouvons rien à manger. L'endroit est inondé et les enfants pleurent car ils sont obligés de rester debout sans un endroit pour s'asseoir, explique leur mère. Érigée sur un site marécagé, la base de l'ONU n'était pas censée accueillir tant de gens. Mais aujourd'hui, 47 000 déplacés s'y entassent. Ce sont essentiellement des Nuer qui ont fui les affrontements entre les rebelles en majorité Nuer et des forces gouvernementales composées des Dinka, ces dernières contre la Bentoui. Beaucoup ont peur de partir. Au moins, il y a des marchés sur place dans les camps et un sens de communauté. Cependant, vivre en permanence dans l'eau jusqu'aux genoux rend la vie insupportable. Il y a beaucoup de maladies comme celle de la peau. Vous avez l'impression que tout votre corps vous démange, si bien que vous dormez mal. Il y a aussi la diarrhée parce que les latrines sont inondées et les eaux souillées ont envahi les maisons où nous vivons, explique Robert Terre, un habitant du camp. Les inondations ont détruit non seulement les maisons, mais aussi les écoles et l'accès aux centres de santé. Les agences humanitaires qui assuraient ces services dans les camps se concentrent maintenant sur une nouvelle priorité, les drainages. L'opération consiste à pomper l'eau du camp vers les marécages à l'extérieur, tandis que les engins des terrassements construisent des digues pour empêcher l'eau de revenir dans les camps. Le chef du bureau de l'UNICEF pour l'État d'Unity, Ayinga Razafi, dit que cela prendra des semaines avant que les sites de protection ne s'assèchent. Créer les conditions de vie sur place est la seule solution à long terme, dit-il. Le plus grand besoin actuellement, si je puis dire, c'est la paix pour que nous déplacions les gens hors de ces sites de protection. Ils ne sont pas supposés vivre ici, mais les conditions de vie hors du camp ne sont pas réunies, expliquent les responsables de l'UNICEF, ajoutant qu'il vaut mieux que les déplacés restent sur place. La saison de pluie devrait prendre fin bientôt et les responsables militaires s'attendent à une escalade dans les combats, ce qui accentuerait encore la pression sur les déplacés qui ont déjà beaucoup souffert et sont au bout du rouleau.
Aujourd'hui, sur La Voix de l'Amérique, chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, on accueille en studio Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir chérubin.
Alors, un gros sourire, Nicolas, c'est peut-être parce que vous êtes fan de la RDC, non ?
Non, parce qu'il y a eu du suspense et que c'est un grand plaisir de voir ce qui s'est passé à Abidjan.
On parle de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2015, bien sûr. La RDC fait chuter la Côte d'Ivoire.
Et oui, victoire 4-3 des Léopards qui se relancent dans ce groupe, des scénarios incroyables. Le coup de tonnerre est venu d'Abidjan où les éléphants réduits à 10 ont été battus sur le fil par la RDC. Ce sont les Congolais qui ont ouvert le score à la 20e minute de jeu par Kebano qui joue son premier match avec les Léopards. Yaya Touré permet aux Ivoiriens d'égaliser quelques minutes plus tard. Les Congolais ont repris l'avantage à la 34e minute de jeu grâce à Kabananga et dans la foulée, Jérémy Bokila qui triple le score pour les Congolais qui mènent par 3-1 à la mi-temps. Le fait du match, chérubin, il intervient en début de seconde période quand Franck Kessié est exclu pour les Ivoiriens. Réduits à 10, devant leur public, les éléphants deviennent fous, ils sont galvanisés et c'est Kalou, auteur d'un doublé qui remet les deux équipes à égalité, 3-2.
Et ils ont espéré jusqu'à la fin.
Et bon, on se disait qu'on allait tous rentrer au vestiaire, les hommes d'Hervé Renard pensaient avoir fait le plus dur, mais c'est sans côté, sans beau qu'il a encore lui, qui vient crucifier les Ivoiriens à la 90e minute. La RDC désormais deuxième ex aequo avec la Côte d'Ivoire.
Et qu'est-ce qui s'est passé à Yaoundé ?
Alors justement, ce résultat fait l'affaire des Camerounais qui l'ont emporté 2-0 devant la Sierra Leone. Léonard Kouaké et Stéphane Mbia qui ont inscrit les deux buts rapidement à la 3e et 7e minute de jeu. Du coup, les Lions Indomptables occupent avec 10 points la première place de ce groupe. Écoutons Jules Lobo.
Face à la Sierra Leone, les Lions Indomptables du Cameroun ont enregistré leur troisième victoire dans ces éliminatoires de la CAN 2015. Un résultat favorablement apprécié par les supporters.
Un match très équilibré du point de vue physique. Le Cameroun a été tout simplement réaliste à l'opposé donc du match aller où la Sierra Leone a opposé une densité physique aux Lions Indomptables. Et je me dis aussi que d'ici la suite de la compétition, le Cameroun va donc avec un moral un peu plus haut.
J'ai vraiment apprécié le match et la façon les joueurs ont vraiment maintenir le football. Si vraiment ça continue comme ça, j'espère que nous allons y arriver. Nous pourrons peut-être faire quelque chose.
Ils ont bien joué. On a quand même vu la réaction des gars. Les gars avaient envie de jouer. Ils ont envie de gagner. Donc on a quand même vu les efforts qu'ils ont fournis. Ils voulaient gagner le match dès la première.
Après le match nul enregistré au match aller, l'équipe nationale du Cameroun avait l'obligation de résultat malgré son rajeunissement. Volke Finke, entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables.
C'est une équipe
vraiment en construction. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses aussi aujourd'hui qu'il faut, qu'on peut faire mieux. Mais finalement, c'était un match contrôlé. On a commencé très bien avec les deux buts.
Prochaine étape, le 15 novembre prochain, ce sera contre la RD Congo. Yaoundé, Jules Lobo, pour la Voix de l'Amérique.
Autre résultat dans le groupe A, Nicolas.
Le Nigeria sauve sa tête pour le moment. Victoire 3-1 face au Soudan. Les Super Eagles se donnent d'un sursis en attendant le résultat du match en cours à Polo Kwame entre l'Afrique du Sud et le Congo Brazzaville.
Dans le groupe B,
l'Algérie devrait logiquement assurer sa qualification. Le match en cours à Blida face au Malawi. Et pour le moment, grosse surprise à Bamako. 2-2 entre le Mali et les Walia.
Le Burkina Faso et le Gabon dans le groupe C.
Rencontre actuellement et pour le moment 1-1 entre ces deux équipes qui se disputent la tête de ce groupe C. L'Angola à Luanda a battu facilement le Lesotho 4-0 dans un match sans enjeu.
Et bonne nouvelle pour le Togo.
Le groupe E, le Togo recolle les morceaux. Nouvelle victoire 1-0 devant l'Ouganda, des éperviers à Lomé grâce à Serge Akakpo. Les Togolais sont désormais deuxième avec 6 points derrière le Ghana qui a battu la Guinée 3-1. Le résumé du match à Lomé, Kyle Hawson.
Le second duel aérien entre les éperviers du Togo et les Crans de l'Ouganda a tourné à l'avantage des Togolais. Comme à l'aller, les éperviers se sont imposés ce mercredi 15 octobre à Lomé par la plus petite des marques, 1-0. Cette défaite face aux Togolais en l'espace d'une semaine a revivé la rage dans le camp ougandais, comme le dit son entraîneur Sredojevic Miloutin.
Every match that we are playing in this group for us is like
nous devons jouer les matchs avec un esprit de phase finale de Coupe d'Afrique et des Nations. Donc chaque match a un enjeu important et nous devons nous y atteler dans ce sens. Mais nous sommes dans la logique suivante qui consiste à ne jamais abandonner. Donc nous avons toujours espoir.
Look for our chance in mathematics in last two games.
Après Kampala la semaine dernière, les éperviers du Togo ont confirmé leur bonne forme devant les Ougandais à Lomé. Tchanile Tchakala, entraîneur des éperviers.
Nous avons commencé difficilement. De toute façon, nous sommes en train de graduellement retrouver la vitesse de croisière. Pendant un an et demi, cette équipe n'a plus joué. Et les automatismes, dès qu'on a commencé, ça ne peut pas automatiquement venir. Et je pense quand même que c'est au fil du travail que nous allons aboutir à la satisfaction générale.
Les supporters togolais ont cru jusqu'à la fin et font déjà des calculs pour espérer voir le Togo présent au Maroc pour la CAN 2015.
C'est comme tous les matchs du Togo, hein. Au début c'est un peu dormant, mais par la suite ça a marché, Dieu merci. Je pense qu'on a un match encore à la maison et il y a un match à l'extérieur. Il nous suffira, je crois, de faire un bon match ici et de gagner et aller au Ghana chercher un match nul. Et ça ira, Inch'Allah.
Kyle Hawson, Lomé pour la Voix de l'Amérique.
Voilà et rapidement deux résultats. La Zambie qui n'a pas fait de détails face au Niger, victoire 3-0. Et on note également la victoire à Praia du Cap-Vert devant le Mozambique, 1-0.
Tout sur la CAN 2015 avec Nicolas Pinot.
On enchaîne sur la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Il s'appelle Nathan Aoukoua et il est un rappeur engagé et chanteur congolais qui vit et travaille entre Kisangani et Goma dans la République démocratique du Congo. Nathan sera notre invité dans RM Show ce soir. On l'écoute dans Qui suis-je ?
C'est pas cet étudiant qui pour passer de classe triche, mais qui pour travailler complètement s'en fiche. Il se prend pour un caïd, il aime bien jouer les durs. Son avenir en danger, dites-lui que c'est sûr. Je ne suis pas ce pasteur qui manipule ses fidèles, qui viole les garçons sans les drogues dans la chapelle.
À 8 ans, sous l'influence de sa mère Hélène Wemby, Nat monte un groupe de danse et de chant accompagné de sa sœur aînée et ils interprètent les Makoma, un groupe très connu en Afrique.
Oui, Morgan, ce rappeur très talentueux, autrement appelé Arme Silencieuse, Nathan sera notre invité ce soir, comme je l'ai dit. Il nous parlera de son mixtape authentique et nous présentera aussi quelques chansons de son nouvel opus. Je demande donc à tous les fidèles de RM Show de ne pas rater cette émission, de nous appeler au 001-202-619-3140 pour participer en live.
Alors qui suis-je, une question sans réponse, qui ne cesse de me hanter, car à chaque fois j'y pense, alors qui suis-je.
Nat, qui suis-je? Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie, Morgane.
Roger Muntou, que vous retrouvez tous les soirs dans le RM Show à 20h, temps universel.
Je ne suis pas ce dictateur qui tient son pays d'une main de fer, incapable de construire des routes de chemin de fer. Mais elle opposition.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction.
Merci à Joe Gill, à la console technique.
C'était Morgan Guiriec.
Et chez Ruben Dorsil.
À demain.
Avec sa belle cravate, je ne suis pas ce juge, un mec avec les riches, qui par le poids de l'argent tolère l'injustice. Je suis pas de cette famille qui a vu le mot bouddhisme aller ailleurs subir l'injustice et le racisme. Qui se réfugiait, poster tout en France pour fuir le malheur, les peines et la souffrance. Je suis pas ce politicien qui bat campagne que pour un